Le patrimoine de Besse en bulle sonore. Une série de sons pétillants pour découvrir Besse, ses mystères, ses légendes et ses habitants. Le 3 avril 1944, les Allemands se sont déployés autour de Besse et resserrent leur étau vers le centre du village. Ils contrôlent les identités, puis commencent à entrer dans certaines maisons pour arrêter les résistants. Ils semblent bien renseignés.
Moi, mon avis, c'est Balançat qui était à l'initiative des maquis sur la région, indiscutable. Puis il avait la prestance, il avait l'autorité, parce qu'il était un autoritaire, et il savait ce qu'il voulait, et il en imposait. Hein. Moi, je sais que Boyer m'en a parlé beaucoup, après, là, Marcel Boyer, qui était marchand de vin aussi, après, plus tard, un peu plus tard, et donc il m'a dit, tu sais que Balançat, on peut lui tirer les chapeaux, parce qu'il a pris des risques énormes, beaucoup plus que Vallon, Vallon, disons, ce qui a fait un peu sa renommée de Vallon, c'est qu'il a, lors de la démobilisation, il a camouflé, il a pris un camion avec un paquet d'armes et de munitions, d'explosifs et tout, il en avait pris un camion complet et qui était venu planquer ici. Il avait planqué dans le proximité, à côté du... À côté de l'auto-école, la petite grange qu'il y avait là. Et il avait fermé le camion là-dedans. Alors, à partir de là, il n'était pas gradé, il était mécanicien dans l'armée là, pendant la mobilisation. Et donc, il a pris quand même des responsabilités, c'est sûr. Il a eu une très bonne initiative, mais il en était resté là. Mais qui c'est qu'après, qui a bougé, c'est surtout Balançat qui a contacté les personnes, notamment Zozo Juillard. C'est Zozo Juillard avec qui j'étais très très copain avec son fils et lui-même aussi. Mais Zozo était beaucoup plus âgé que moi, bien sûr. Et alors Zozo Juillard, il a été impliqué peut-être dans les tout premiers, mais je pense que Balançat y a été pour beaucoup pour impliquer Zozo Juillard. Et donc, ils ont décidé, comme Vallon avait fait cet exploit, de mettre ce camion chargé d'armes, bien camouflé, avait quand même pris peut-être certains risques, d'après ce qu'ils disent, ils l'avaient décidé de mettre comme chef, et ce qu'il avait accepté. Mais il y en a un autre qui avait pointé son nez, c'était Soulier. Et Soulier, très tôt, d'ailleurs, il a été révoqué, Soulier a été révoqué, je crois, je ne sais pas si c'est pas en 42, je crois, ou peut-être début 42, qui avait déjà l'esprit de résistance, et dont le ministère de l'Éducation nationale l'a mis dehors. Donc, Soulier, très tôt aussi, est rentré, et est devenu un des chefs. Donc, il y avait les trois chefs, d'abord, momentanément, Vallon, ensuite Soulier et Zozo Juillard, et Madame Tartière, qui a été la première femme. Donc, à partir de là, les maquis se sont formés et ils ont trouvé Kella. Ben, Kella qui avait été prisonnier de guerre, mais qui s'est évadé et qui avait acquis déjà, son père avait acquis la montagne de la Lys et qui a été chargé par Vallon, Zozo, Juillard. Et le père Joigny. Ils ont été trouvés, Kella, si vous voulez bien, s'impliquer et essayer d'initier quelques jeunes au maniement d'armes, tir et tout. Il a dit, aucun problème. Et il a accepté d'entrer avec son épouse, Marie-Rose. Et c'est à partir de là, après février 43, qu'il y a eu les STO, donc, qui ont été instaurés. Donc à partir de là, que les jeunes... Au fur et à mesure qu'ils recevaient les cartes, les convocations pour aller travailler en Allemagne, au lieu d'aller travailler en Allemagne, bon, alors là, le travail de Lavergne, où là, Lavergne est entré donc en scène, au lieu de rencontrer les jeunes, c'est-à-dire il les rencontrait, mais il leur disait, je ne vous ai pas vu, vous n'étiez pas présent, mais n'allez pas en Allemagne, partez, rentrez dans la résistance. Ou alors allez vous cacher ailleurs, mais ne partez pas en Allemagne. Et alors, à force que Lavergne ramène les convocations en gendarmerie, ça c'est devenu quand même louche que jamais ils trouvent quand même un jeune. Ils étaient toujours tous absents. Et à partir de peu de temps après, Lavergne a été révoqué à son tour. Donc, Kayla, avec Marie-Rose, donc, ont bien fait leur travail, ont bien reçu ces jeunes. Donc, un des tout premiers a été Louis Ménial, je crois, qui avait reçu sa carte pour aller à Stettin, il me semble, et puis qui s'est rendu donc à la liste. Et au fur et à mesure, les jeunes qui recevaient les cartes, eh bien, rejoignaient Kayla à la liste. Et ceux qui étaient un peu de l'autre côté, sur Compin, un peu de l'autre côté, ou Saint-Ouar-Saint-Anastèse, des autres communes, Val-Belay, eh bien là, le père Guagou, le père de Madame Luzui, qui sera blessé le 9 août par les Allemands, et qui sera arrêté pour qu'elle conduise des Allemands auprès du bureau d'Assessère, qui était la propriété donc de ce monsieur Guagou, qui était de Saint-Vincent, la commune de Saint-Vincent, et qui avait créé, lui aussi, à son tour, un centre de formation à la Sacer, qui a été très, très important. Où donc tous les jeunes qui en sortaient sont partis dans les maquis du Petit Paris, Arde, sur Issoire, ils sont partis sur Mono, sur Rochard-Laméran, sur plusieurs endroits, ils se sont dispatchés. Et là, je peux dire que le centre de formation de la Sacer a été très important, aussi important que celui de la liste. Alors d'ailleurs, ceux qui ont été tués au Petit Paris avaient passé par la Sacer, Dallan, l'amour de Dieu, Pierrot Fort, qui a été blessé par contre à Courbange, avait été formé à la Sacer. Tu vois, des gars de la région d'Issoire, beaucoup plus étaient montés sur la Sacer. Et tout l'autre côté, c'est-à-dire le Chambon, Champé, Besse, Ouarec-Glisneuf-Picherande, c'était la liste. Voilà les deux centres de formation. Et à partir de là, bon, les maquis se sont dispatchés. Il y a eu le Buron du Verdier qui a été très important, le Buron du Breuil, le Buron de Cervet, voilà trois burons qui ont été très occupés, où il y a passé beaucoup de monde. Les bois de Courbange servaient de parc pour les véhicules, parce qu'ils avaient quand même pas mal de véhicules, les résistants, camionnettes, voitures particulières et tout. Même, il y avait même un camion, puisque Salvan avait mis son camion à disposition. Après, Mono a été un lieu où les maquis se sont déplacés, sont revenus, ils sont retournés à plusieurs reprises. Après, tu avais le Buron de Surin, où c'était le maquis de Bono. Lorsqu'il y avait du danger, bon, ben, ils prenaient les hauteurs et ils allaient dans les burons, qui étaient en altitude, pour être plus camouflé. Et puis, après, en redescendant, tu avais Saint-Nectaire, tu avais Farge et Boissière, qui étaient deux lieux très importants, où il y avait là les frères Belante, qui avaient déjà fait partie de Laura, ainsi que le père Guagou, l'autre Guagou, mais qui était de Surin, c'est-à-dire commune du Chambon. C'était un trio, là, les deux frères Belante, Guagou de Surin, avec autres deux personnes de Saint-Nectaire qui ont été arrêtées d'ailleurs à leur tour, en même temps que les deux frères Belante. Et donc, les maquis s'étendaient vraiment déjà sur Saint-Nectaire. Et alors, tu avais l'autre secteur, en contrebas de chez nous, c'était Saint-Diéry avec Coteuge et Ouar, même puisqu'il y avait Saint-Floré, puisqu'à Saint-Floré il y avait quelques-uns qui avaient été là-bas, qui avaient fait quelques bêtises et qui ont tiré sur une colonne allemande ou une patrouille, je crois, allemande, et qui avait traversé Saint-Floré. Et à partir de là, il y a eu le bombardement de la ville de Saint-Floré le 30 juin. Le maquis s'est étendu quand même un peu sur tout le secteur autour de Besse. Moi, je tire mon chapeau. Moi, quand on parlait des dames, là, pour moi, cette dame, même elle a été en premier avec les risques qu'elle a pris. Cette dame, elle a prévenu à plusieurs reprises des résistants qui étaient en danger. C'est-à-dire que on avait la milice locale, qui était tout proche de Metz, et qui envoyait des rapports donc à la milice de Clermont. Et donc, elle captait ces rapports, et elle voyait toutes les personnes qui étaient citées et qui étaient en danger. Et elle les a prévenues maintes fois. Et on a d'ailleurs, moi j'ai les rapports là, du milicien en question, et où toutes les personnes qu'il cite, et c'est vrai que ces personnes ont été toujours très 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 averties par Madame Le Gros, et qui, le jour de la rafle, malheureusement, quand elle a passé ses messages pour prévenir tous les résistants qui avaient le téléphone, ou qui étaient cachés chez des personnes qui avaient le téléphone, ont réussi donc à partir et à se cacher et à éviter la rafle. Mais malheureusement, ce qu'elle ne savait pas, c'est que, comme je disais tout à l'heure à Gilles, ce fameux jour, le dimanche d'avant, où il y a eu ces éléments précurseurs qui étaient arrivés pour préparer cette fameuse rafle, ils avaient aussi déterminé des endroits pour poser des tables d'écoute sur les fils téléphoniques. Et là, plusieurs personnes qui descendaient sur Clermont, des fils qui avaient été branchés à plusieurs endroits où il y avait deux, trois Allemands qui écoutaient sur tous les messages qui partaient de Metz. Et là, ça a été la mort de Madame Le Gros, parce que faut dire, moi je ne l'ai pas vu arrêter, mais c'est la première personne où la Gestapo, milice et les Allemands sont arrivés à Metz et ont arrêté. C'est la première personne du pays qui a été arrêtée. Ils ont été directement à la poste, sans rien du tout. Madame, on vous arrête, et ils l'ont conduite à la gendarmerie. Alors son époux, par contre, Monsieur Le Gros, lui, qui avait été en captivité pendant deux ans, qui était un type très bien, qui parlait l'allemand parfaitement, était parti lui prévenir les résistants où il n'y avait pas le téléphone. Et là, il avait fait toutes les fermes isolées où il y avait des jeunes qui étaient cachés, et là leur dire bon, partez vite, prenez les bois, partez où je ne sais où, mais les Allemands sont à Metz. Et quand il est revenu, quand il est rentré, place de la Pairie, voilà, des Allemands qui étaient encore là, bien sûr, dans le pays, puisqu'il y en a eu pratiquement toute la journée, arrête monsieur Le Gros et lui demande d'ouvrir son sac. Et lui, dans un allemand parfait, les a rembourrés d'une manière, disons, rude, et répondu directement. Et il n'a pas voulu ouvrir son sac. Et là, sans tambour ni trompette, il a été conduit, il a été rejoindre son épouse et tous les autres qui avaient été arrêtés. Alors ce jour-là, comme il y avait eu plusieurs barrages, ce matin-là, il y avait quatre barrages. Le premier barrage qui avait été mis en place était au pont du Roi, c'est-à-dire route de Murol et route de Clermont. Donc le barrage était en plein dans le carrefour, il n'y avait pas de rond-point, bien sûr, hein, et il n'y avait pas de déviation, donc avec la route qui montait clairement, celle qui arrivait. Et là, au carrefour, il y avait un barrage. Le deuxième, c'est celui que j'ai cité tout à l'heure, qui était route de Compin, carrefour de l'hôtel du Levant, à proximité des écoles. Le troisième était à Berthelage, c'est-à-dire à la sortie du village qui était détaché de Metz à l'époque. Hein, le village de Berthelage était détaché, il n'y avait pas de maison entre les deux. Et donc, il y avait le barrage à Berthelage qui barrait la route direction Picherand de la Tour. Et il y en avait un quatrième qui était route de Courbange, le Mont d'Or, qui était sur la route de la Vitour à la sortie où il y a le stop actuellement, là, carrément au carrefour de la ceinture de Metz qui longeait les remparts. Donc ça fait quatre barrages qui cernaient bien le village. Et alors, plusieurs personnes, bien sûr, qui sont arrivées dans ces barrages ont été arrêtées. Chanzon, qui habitait Serba, qui est arrivé par le barrage sur la route de Murol, Clermont, Robert Chanzon, qui est cité comme résistant. Moi, je n'ai jamais pas trop entendu dire moi, qu'il était résistant. Peut-être, enfin, il a été considéré. Bon, il a été arrêté, il venait au marché, il a été arrêté. Il sera déporté à Dora. Marcel Gauthier, alors là, je peux en parler parce que Marcel Gauthier, je le connaissais très, très bien. Ce jeune homme. Alors, c'est lui qui m'a appris à faire du ski, en plus. Et il est arrivé avec son vélo. Il était dans la ferme des Ribages. La ferme des Ribages est située sur la commune de Picherande, en contrebas de Vassivière. Et il venait chercher son pain. Mais lui, par contre, ce que je ne savais pas non plus, que j'ai appris récemment, c'est qu'il était résistant et il appartenait au groupe de résistance de Picherande, avec le groupe de Marcel Boyer, et qui a été arrêté et qui mourra à Neuengamme, Vaublin exactement, le jour de la libération du camp. Et donc, il est arrêté ce jour-là et conduit bien sûr à la gendarmerie. Alors, on a un autre, que je n'ai pas connu, mais que j'ai entendu parler, c'était Bilbord. Bilbord, lui, il était caché chez les Malguis, à Berthelage. À Berthelage, il y avait plusieurs fermes. Il devait y avoir 4 ou 5 fermes à l'époque. Il y avait les frères Malgui qui avaient une ferme. Il était caché là, dans la grange. Et il a trouvé qu'il n'était pas suffisamment en sécurité. Et il a voulu sortir de la grange et rejoindre le village d'Aupilière. Et puis il est tombé sur une patrouille. Il a été arrêté et conduit à la gendarmerie. Alors Paquetti, lui, il habitait là juste entre la mairie et la poste. Il est sorti, je crois, pour aller, il allait au pain. Donc il a été arrêté, donc conduit aussi à la gendarmerie. Il y en a un autre, donc, qui était Jacques Lancester, qui était quartier Saint-Jean. Alors celui-là, il avait été caché par Zozo Juillard. Et cette dame, je me rappelle, on l'appelait la Tana. Elle avait un certain âge, cette dame. Et donc Jacques Lancester était caché là. Et puis une nièce de madame, enfin, la personne qu'on appelait Latana, cette dame qui avait un certain âge, qui s'appelait Ozari, et qui avait un bar qui était la rue Mercière, ce bar, le café Ozari, et qui se trouvait juste en face, le bar où avaient été Vallon et madame Vallon. Les deux bars étaient l'un en face de l'autre. Et là, cette famille Ozari, dont une fille fréquentait ce Jacques Lancester, et c'est pour ça peut-être qu'il avait été caché plus facilement chez cette dame qui faisait partie de la famille Ozari. Et donc, il avait été. Zozo lui avait recommandé, Zozo Juillard, surtout de ne pas sortir, au moins pendant une quinzaine de jours, rester à l'abri et de ne pas bouger. Et ce jour de la rafle, Lancester, lui, comme Bilbord, ne se sentait pas trop en sécurité, a voulu descendre direction de la station biologique. Et là, manque de chance. D'abord, avant d'arriver à la station biologique, il a été tiré par les Allemands 2 ou 3 fois, parce que les impacts de balles marqués après le mur qui était sur le côté du petit chemin qui conduisait de Besse à la station biologique, les impacts de balles marquaient à plusieurs endroits, donc il y avait déjà passé près, et donc les Allemands y avaient tiré dessus. Et il est tombé en plein sur l'équipe qui a abattu Lavergne. Et donc, quand il est arrivé là-bas, juste avant que Lavergne soit abattue, Lancester s'est jeté un petit peu dans le bras des Allemands, voilà, qui l'ont arrêté séance tenante. En pantalon, celui-là, il est arrêté dans le bus. Il y avait les autobus départementaux qui faisaient le circuit La Tour d'Auvergne, Clermont, en passant par Besse et Champé. Et bien sûr, ce départementaux s'arrêtait un peu dans tous les pays. Et là, il s'arrêtait tout le temps au Ché, soit en montant, soit en descendant. Et là, l'autobus était arrêté lorsque la colonne allemande est montée le matin. Et la colonne allemande s'est arrêtée au Ché, a même créé un barrage, j'ai appris ça, au Ché, la route qui descendait à Issoire, à ce carrefour-là. Et ils ont, bien sûr, visité tout le bus. Et là, toutes les personnes qui étaient suspectes, ont été arrêtées, dont M. Duludex, qui appartenait à l'étude de M. Balança, qui était son commis aux indirects. M. Ronzier, qui descendait à Clermont pour affaires, qui était résistant, qui a fait partie de la Cisaine, qui avait été formé à la liste chez Kéla. Vantalon aussi, Marmier qui redescendait de Besse et qui était bien impliqué dans la résistance, qui était venu chercher des fromages parce qu'il avait sa famille qui était à Besse, et qui a été arrêté. Et puis un Gatignol, un Gatignol qui était de Saint-Dierry, mais qui allait travailler à Issoire, non, à Néché. Il était employé dans une scierie, et qui était en vélo, qui était arrêté à ce barrage, et porteur d'une gourde soi-disante qui appartenait à la résistance. Sans autre forme de procès, il a été arrêté et déporté. Il sera déporté à Dora et il n'en reviendra pas. Voilà. Ronzier du Ludex donc est mort et est mort donc pendant le convoi qui l'emmenait à Buchenwald. Ventalon, je crois, a été libéré mais est mort de ses souffrances une quinzaine de jours après. Et puis Ronzier et Marmier est mort à Bergen-Belsen. Quand Madame Le Gros a téléphoné le matin, donc bon, je peux en porter, puisque je l'ai dit tout à l'heure, a téléphoné à mon père, mais avait téléphoné à Monsieur Vallée, avait téléphoné au père Joigny, avait téléphoné à plusieurs personnes qui étaient suspects à Besse, bon pour qu'il fuit. Elle avait téléphoné également dans des fermes, parce que c'est pas toutes les fermes bien sûr qui avaient le téléphone, mais dans chaque village. Il y avait ce qu'on appelait un téléphone public à l'époque. Donc une ferme qui avait le téléphone où les gens du village pouvaient venir téléphoner. Et là, cette Madame Le Gros avait téléphoné dans plusieurs villages où il y avait le téléphone public, mais elle avait téléphoné à Monsieur Boyer de Mona qui avait le téléphone. Donc le père Boyer, quand il a reçu les coups de fil de Madame Le Gros, il a expédié son fils Paul, qui était déjà aussi STO, donc qui aurait dû partir en Allemagne, rejoindre la liste pour prévenir qu'elle a, que les Allemands venaient à Besse. Mais il est descendu aux fermes du Faux, qui est un petit village à combien, à 700-800 mètres, même à peine 500 mètres de chez lui, prévenir dans une ferme où il y avait, chez la ferme Garnbeuf, où il y avait le fils, Roger. Il y avait René Jalicou et il y avait un nommé Maury qui venait d'Église Neuve, très jeune. Ils étaient trois dans une ferme, là, chez les parents Garnbeuf. Et le père Boyer dit « Allez vite, vous cachez à quelque part parce que les Allemands sont à Besse ». Et ils sont partis, ils sont montés à pied, mais ils ne sont pas suffisamment cachés. Il aurait fallu aller, bien sûr, beaucoup plus loin. Bon, personne pensait peut-être qu'ils iraient les chercher à l'endroit où ils se sont cachés. Ils ont été dans ce qu'on appelle le Buron des Sœurs, qui se trouve dans une montagne à proximité, juste en face Mona, mais de l'autre côté de la route qui monte actuellement, mais pas suffisamment loin. Et quand ils sont montés, ils ont croisé un cycliste. Un cycliste qui montait aussi sur la route, le vélo à la main. Et ils se sont cachés dans ce buron, qui était à, disons, à 150, 200 mètres de la route. 20 minutes après, même pas demi-heure, Un camion arrivait avec une vingtaine de soldats qui encerclaient le buron et les trois ont été arrêtés. Les trois ont été arrêtés et qui seront dépendus, conduits à la gendarmerie comme tous les autres. Jalicou sera libéré, mais il sera atteint du typhus. Il rentrera beaucoup plus tard. Ronzier, qui était avec lui, rentrera. Moi ça je m'en souviens. Alors là je l'ai vu arriver Ronzier dans un état. Il pesait. Je crois, je ne sais pas si c'était pas 31 ou 32 kilos, était dans un état lamentable. Et le troisième qui était avec eux, Marcel Gauthier est tombé le jour où le dernier rassemblement le matin, puisqu'il y avait des rassemblements tous les matins pour vérifier tous les numéros des déportés, à Vaublin, le matin, est tombé, même paraît-il, enfin, parce que m'avait dit René Jalicou, est tombé dans une flaque d'eau inanimée. Et Jalicou s'est précipité pour aller le relever, et il a été roué de coups de schlag, que lui, à son tour, pouvait à peine s'en relever, et donc est rentré beaucoup plus tard parce qu'il a eu le typhus. Et Marcel Gauthier est resté mort là dans la flaque d'eau, est mort là le jour où les Anglais sont arrivés pour les délivrer. Alors Paul Bian, là c'est ce matin-là, quand ils sont arrivés, la colonne après s'est disparue. Je pense que le gros de la colonne est resté sur Besse, mais une partie de la colonne est partie sur Compin. direction Compiègne. Il fallait refaire une deuxième, puisque quelques jours avant, puisque le 30 mars, ils avaient attaqué le maquis de Belguette et ils avaient arrêté Jean-Pierre, Delesco, Rénal, enfin, comme ils en avaient, Reversac, Robert Terrasse, qui seront relâchés, Reversac et Robert Terrasse seront relâchés, mais les autres seront déportés. Et Gérard Thierry, voilà, oui, Nikola Milosevic aussi, qui a été arrêté et qui sera déporté. Et là, lorsque les Allemands ont été pour attaquer le maquis de Belguette, quand ils ont eu arrêté Jean-Pierre là, et tous ses compagnons, des jeunes qui étaient dans un bureau au-dessus, qui étaient à Beaux, voilà, parce que le PC de Jean-Pierre était à Belguette. Le maquis de Compiègne était dispatché autour de Belguette, dans les petits villages qui étaient en altitude. Et là, à Beaux, donc il devait y avoir 2-3 sizaines, puis qui sont descendus et qui ont attaqué le convoi qui emmenait Jean-Pierre et ses amis, ses camarades résistants. Ils ont attaqué le convoi, mais inférieur en armement, les Allemands ont su répondre comme il faut, et ils ont abattu au cours de cette attaque 4 jeunes, dont un de 17 et l'autre 19 ans. Quand ils sont venus sur cette colonne, le 3 avril est monté sur Besse, ils ont voulu à nouveau faire une sortie sur Belguette, sur Compiègne, et là ils ont commencé par passer par Champs. Ils sont montés à Champs, un village commune de Saint-Anastèse, où il y avait un maquis, à Champs. Mais le maquis, bien sûr, avait quitté les lieux, avait été prévenu. Et là, ils ont fait brûler 2 fermes, là-haut, à Champs. Et puis après, ils ont été à Belguette, où ils ont mis le feu aussi, à 2-3 endroits. À Grolier, ils ont fait brûler aussi, ce 3 avril, la ferme La Porte, plus une autre. Et ils ont arrêté l'instituteur Bion devant ses élèves.
Ce jour-là, 20 personnes ont été arrêtées. Les résistants seront interrogés, torturés, et resteront jusqu'en mai, juin, voire juillet, là, emprisonnés. Ils sont envoyés ensuite à Compiègne, un camp de transit, puis déportés en camp de concentration.